Chapitre 42. Tandis que les Bandakars se prosternaient autour d'eux, reconnaissant qu'on ait enfin levé leur sentence d'exil, Richard échangea un long regard avec Callan. Visiblement agacé par ces débordements émotionnels, Kara faisait de louables efforts pour ne pas intervenir. Jugeant que tout ça avait assez duré, Richard fit signe aux hommes de se relever. « J'ai d'autres choses à vous dire. Veuillez m'écouter, je vous en prie. » Des larmes de joie roulant sur leurs joues, les Bandakars obéirent et entourèrent leur seigneur. On eût dit qu'ils venaient de retrouver un frère perdu de vue depuis longtemps. Il y avait quelques hommes mûrs parmi les résistants, mais la plupart étaient très jeunes, comme Owen, ou un peu plus vieux, environ l'âge du sourcier. Tous avaient traversé de terribles épreuves. Mais le plus dur les attendait encore, car Richard allait devoir les obliger à regarder la réalité en face. Il se tourna vers Jensen et lui fit signe d'approcher. Elle obéit, sortant de l'ombre de la statue, et tous les regards se rivèrent sur elle tandis qu'elle approchait de son frère. Richard sourit de voir à quel point sa sœur resplendissait. Jouant avec une mèche de ses cheveux roux, elle regarda timidement les Bandakars puis baissa les yeux. Richard lui tendant les bras, elle vint se réfugier contre lui, puis étudia de nouveau les étranges résistants qui lui ressemblaient sur un point capital. « Je vous présente ma sœur, Jensen Rall, » dit Richard. « Elle est étrangère au don exactement comme vous. Notre père a tenté de la faire assassiner. Le comportement normal d'un seigneur Rall face à un pilier de la création. »
« Et vous ne la rejetez pas ?»
demanda un homme visiblement sceptique. Richard serra Jensen contre lui.
« Pourquoi le ferais-je? Quel crime a-t-elle commis pour que je la repousse? Être une femme et pas un homme, comme moi? Ne pas mesurer la même taille que moi? Avoir les cheveux roux, les yeux bleus, ou ne pas avoir le don? »
Les hommes eurent l'air embarrassés. Pour se donner une contenance, certains croisèrent les bras et d'autres étudièrent attentivement la pointe de leurs chaussures. Après tout ce que le sourcier venait de dire, il ne devait pas se sentir très fier d'avoir posé la question.
« Jensen est jolie, intelligente et courageuse. Elle aussi a lutté pour affirmer son droit à la vie. Au cours de ce combat, elle a toujours su garder la tête froide, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Comme vous, elle est totalement étrangère à la magie, mais je lui fais une place dans mon cœur, parce que nous partageons une valeur essentielle, le respect de la vie. »
Un bêlement fit soudain sursauter le sourcier. Il se retourna et vit que Betty trottinait pour les rejoindre. Jensen en écarquilla les yeux de surprise. Quand la chèvre fut arrivée, la sœur de Richard examina la longe et y découvrit des traces de dents.
« Betty, tu as coupé ta longe ?»
s'indigna Jensen.
« Ce n'est pas bien du tout. »
La chèvre semblait au contraire très fière de son exploit. Soupirant d'agacement, Jensen fit un petit geste d'excuse à Richard. Très impressionnés, les résistants avaient reculé de quelques pas et ils murmuraient entre eux.
« Je ne suis pas une envoûteuse !»
leur lança Jensen.
« Avoir les cheveux roux ne prouve rien !»
Les Bandakars ne parurent pas convaincus.
« J'ai eu affaire à toutes sortes de magiciennes, » dit Richard. « Aucune n'avait les cheveux roux. C'est une légende. »«
Pas du tout !»
insista un des hommes. Il désigna Betty.
« Et voici son esprit lige. »«
Son quoi ?»
lança Richard.
« Son familier, »
dit un autre homme.
« Tout envoûteuse en a un. Dès qu'elle l'appelle, il est à court plus vite que le vent. »« J'aurais appelé Betty ?»
s'étonna Jensen. Elle brandit l'extrémité mâchouillée de la longe.
« Je l'avais attachée à un arbre, et elle a rongé la corde. »«
Non !»
dit un autre type.
« Tu l'as appelée et elle est venue aussitôt. »
Les poings plaqués sur les hanches, Jensen avança vers les résistants, qui reculèrent avec un bel ensemble.
« Vous avez tous des amis et une famille, »
dit la jeune femme.
« Bref, vous faites partie d'une communauté. Je n'ai jamais pu avoir un ami parce que ma mère et moi devions fuir sans cesse les tueurs à la solde de mon père. S'il m'avait capturé, Darkenral m'aurait fait torturer puis abattre. Soit dit en passant, il vous aurait réservé le même sort s'il avait connu votre existence. Pour rendre ma solitude plus supportable, ma mère m'a offert Betty. C'était un bébé chèvre, et nous avons grandi ensemble. Si elle a coupé sa longe pour me rejoindre, c'est simplement parce qu'elle m'aime. Comme vos ancêtres, j'ai été rejeté à cause de ma naissance. Vous savez tous que c'est totalement injuste, et vous savez à quel point on souffre d'être banni. Et maintenant, vous voudriez me rejeter parce que j'ai les cheveux roux, et parce qu'une chèvre me tient compagnie? Seriez-vous des crétins hypocrites et d'ignobles couards? Pour commencer, vous avez empoisonné votre sauveur, et maintenant vous m'ostracisez à cause d'absurdes superstitions. Si j'avais une once de pouvoir, je vous carboniserais sur place, espèce de monstre.
Richard posa une main sur l'épaule de sa sœur et la tira en arrière.
« Ça va aller, Jensen, ça va aller. Laisse-moi leur parler. »«
Seigneur, »
dit un vieil homme au dernier rang des Bandakar,
« vous prétendez être un sorcier, et vous nous demandez de le croire aveuglément. En un sens, vous exigez un acte de foi de notre part. » Mais quand il s'agit de l'envoûteuse, vous affirmez que notre foi ou notre instinct n'est pas fiable.
C'est vrai,
renchérit un autre résistant.
À vous entendre, vous croyez en la véritable magie, mais nous sommes de pauvres imbéciles trop crédules. Je suis d'accord avec bien des choses que vous avez dites, mais pas sur ce point-là.
Il ne pouvait pas y avoir d'adhésion partielle ou conditionnelle. Rejeter une partie de la vérité revenait à la refuser tout entière. Mais comment convaincre des trous dans le monde que la magie existait vraiment? De leur point de vue, Richard semblait commettre l'erreur même dont il les accusait, et les persuader du contraire revenait à faire voir un arc-en-ciel à un aveugle.
« C'est très bien raisonné, » concéda Richard. « Laissez-moi un instant et je vous montrerai que la magie dont je parle existe vraiment. »
Richard fit signe à Kara d'approcher.
Va chercher la balise, s'il te plaît.
La mort de Sid partit immédiatement vers le camp où Richard avait laissé son paquetage. Le sourcier vit que Jensen avait les larmes aux yeux, mais qu'elle parvenait à les contenir. Alors qu'il se préparait à reprendre son discours, Callan entraîna à l'écart la sœur de son mari.
J'ai encore des choses à vous dire et elles sont très importantes. J'ai levé la sentence d'exil. Mais ça ne veut pas dire que je vous accepte sans condition.
Vous avez pourtant dit être heureux de notre retour,
rappela Owen.
C'était une façon d'affirmer que vous étiez libre de choisir votre vie. Si vous le souhaitez, je vous accueille à bras ouverts dans l'Empire d'Aran. Cela dit, j'ai quelques exigences à votre égard, et n'espérez pas que j'y renonce. Tous les hommes sont libres, je ne le dirai jamais assez. Mais n'allez surtout pas vous méprendre. Il existe une grande différence entre la liberté et l'anarchie. Si nous finissons par vaincre, vous deviendrez membre de l'Empire d'Aran et vous devrez adopter certaines de ses valeurs fondamentales. Prenons un exemple très simple.
Vous pouvez penser ce qui vous chante et tenter de convaincre les autres que vous êtes dans le vrai.
Mais il n'est pas question que vous teniez pour des sauvages ou des criminels les gens qui luttent pour une liberté dont vous espérez profiter. Au minimum, ces guerriers auront mérité votre respect et votre gratitude. Leur vie vaut autant que la vôtre, et il n'est pas question qu'elle soit sacrifiée pour votre bénéfice, car c'est cela l'esclavage.
Vous vous battez sauvagement pour une terre que nous n'avons jamais vue,
dit un jeune homme. Il désigna l'Empire Bandakar derrière son épaule.
Notre seule patrie est ici, et nous ne partagerons jamais votre amour de la violence.
Qui a parlé de patrie ?
S'écria Richard.
Nous ne nous battons pas pour un pays, mais pour un idéal dont la liberté est la pierre de voûte. Nous ne versons pas notre sang pour un peu de poussière ou pour défendre des frontières imaginaires, et surtout, nous ne vénérons pas la violence. Si nous luttons, c'est pour la liberté des individus, leur droit à survivre et leur légitime quête du bonheur.
Parce que vous rejetez aveuglément la violence, vous vous pensez supérieur aux autres, ceux qui sont censés ne pas connaître la lumière.
En réalité, vous capitulez devant le mal, rien de plus. Renoncer à se défendre revient à mendier la pitié et la compassion auprès de ses ennemis.
Le mal ignore la pitié, et tout ce qu'on fait pour l'amadouer le rend plus fort. Baisser les bras revient à accepter l'esclavage dans le meilleur des cas, et à se résigner à mourir dans le pire. En ce sens, votre non-violence signifie que vous aimez mieux mourir que vivre. Avec l'ordre, vous serez servi, croyez-moi.
La clé de la survie d'un peuple est de résister à ceux qui emploient la force contre lui. La justification morale de cette forme de violence est simplement la défense du droit à la vie des individus. Écraser des agresseurs est une manière de dénier à la violence le droit de faire régner la terreur sur le monde. Chercher coûte que coûte à détruire ceux qui utilisent la force contre des innocents est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à la vie. Résister aux bandits et aux tyrans, voilà le meilleur moyen de célébrer la douceur et l'harmonie de l'existence. Refusez de vous défendre et vous deviendrez des souris qui tentent de négocier avec des hiboux. Vous pensez que les hiboux se comportent mal ? Eux, ils vous ont prévu à leur menu et rien d'autre ne les intéresse. L'ordre impérial clame haut et fort que l'humanité est corrompue et que la vie ne vaut rien. Le salut et le bonheur, selon cette philosophie, ne peuvent se trouver que dans un autre monde. Un excellent prétexte pour massacrer à tour de bras dans celui-ci. Quand elle est librement consentie, la générosité est une des plus belles choses qui soient. Mais imposer le sacrifice revient simplement à donner un autre nom à l'esclavage. Les chantres du sacrifice sont des manipulateurs qui tentent de dissimuler les chaînes et les boulets qu'ils réservent à leurs victimes. Si vous devenez des darans, nul ne vous demandera de sacrifier votre vie pour les autres. En échange, vous n'aurez aucun droit d'exiger qu'on le fasse pour vous. Croyez ce qui vous chante, refusez même de prendre les armes si vous vous en sentez incapable, mais vous devrez contribuer à la défense de notre cause d'une façon ou d'une autre. Plus important encore, il vous sera interdit de participer physiquement ou intellectuellement à la destruction des valeurs de l'Empire d'Aran. Car il s'agit de trahison, et le châtiment le plus terrible attend ceux qui s'y livrent. L'ordre impérial a envahi des pays pacifiques tels que le vôtre. Chez vous, ces soudards ont torturé, violé et tué afin d'asseoir leur domination. Ils ont fait de même dans le Nouveau Monde, et ces forfaits les privent du droit à la compassion. Nous n'avons aucun dilemme, et le débat éthique est clos depuis longtemps. Ces meurtriers doivent être éliminés. Un homme fit deux pas en avant.
Les règles élémentaires de la morale imposent qu'on ait pitié des brebis égarées.
Où voyez-vous des brebis égarées, mes amis ? Ce sont des meurtriers.
Rien n'a plus de valeur que la vie, je vous le concède, et cette notion de pitié pourrait passer pour une manière de défendre cet inestimable trésor. Mais les bourreaux de l'ordre se croient autorisés à disposer de la vie des autres. En multipliant les massacres, ils se sont privés du droit de vivre. Avoir pitié de tels monstres revient à les excuser et à leur permettre de continuer de tuer. Si un assassin n'est pas déchu de son droit à la vie, il peut légitimement estimer que tuer des innocents n'est pas un acte condamnable. La pitié accorde trop d'importance à la vie du meurtrier et diminue d'autant la valeur qu'on accorde à celle de sa victime. En un sens, le sort du coupable importe plus que celui de l'innocent. Le mal l'emporte ainsi sur le bien et la mort triomphe de la vie.
« Si je comprends tout, dit Owen, pour venger votre peuple, vous êtes prêt à tuer jusqu'au dernier habitant de l'Ancien Monde ?
Absolument pas. L'ordre impérial est maléfique, et il est bel et bien issu de l'Ancien Monde. Mais ça ne veut pas dire que tous ses habitants sont des monstres parce qu'ils ont eu la malchance de naître dans une région dirigée par des tyrans. Certains soutiennent activement leur chef et sont des suppôts du mal. Mais tous ne se comportent pas ainsi. La majorité des gens de l'Ancien Monde souffrent sous le joug de l'ordre impérial, et beaucoup font ce qu'ils peuvent pour combattre la dictature. Au moment même où nous parlons, des hommes et des femmes courageux luttent pour se débarrasser des brutes qui les gouvernent. Nous avons tous le même but, la liberté.
Je me fiche de la nationalité, du sexe ou de l'âge des combattants de la liberté.
Tous croient à la valeur de l'individu et c'est ce qui compte.
L'endroit où vit une personne n'a pas d'importance. Mais là non plus, ne vous méprenez pas. L'ordre impérial a beaucoup de partisans. Ceux-là seront anéantis avec leur chef.
Mais vous serez quand même disposé à faire quelques compromis,
dit un des résistants les plus âgés.
Où est la ligne de démarcation entre compromis et compromission ?
Négocier avec le mal, c'est lui donner l'occasion de vous planter ses crocs dans la chair. Le venin s'introduit dans vos veines et il finit par vous tuer.
Ce sont des positions bien trop radicales, dit l'homme. Ça revient à claquer toutes les portes. Il faut toujours laisser une chance à la paix.
Richard se tapota la poitrine.
Vous m'avez empoisonné, et cette substance me tue. Pour moi, elle est l'incarnation même du mal. Comment devrais-je m'y prendre pour négocier avec ce produit toxique ?
Personne ne répondit.
Dans une relation commerciale, entre deux parties foncièrement honnêtes, une négociation au sujet du prix ou des conditions d'exécution d'un contrat est tout à fait normale. Mais quand il s'agit de morale ou de vérité, transiger n'est pas joué. Pactiser avec des meurtriers, et c'est exactement ce que vous suggérez, les fait bénéficier d'un relativisme éthique qui est un piège mortel. Ce que j'entends par là est très simple. Si nous les mettons sur un pied d'égalité avec nous, les bouchers de l'ordre seront autorisés à penser que leurs croyances et leurs actes, y compris le viol et le meurtre, sont justifiables et justifiés. Bref, ils penseront que nous ne valons pas mieux qu'eux, et c'est intolérable. Négocier avec le mal, c'est jeter le bien aux orties. Si tout devient égal à tout, les pires crapules réussiront à passer pour des saints, et on jettera d'authentiques héros au fond des poubelles de l'histoire. Comment trouver des compromis avec ceux qui torturent, violent et assassinent nos proches ? En instituant un quota de jours de torture par semaine ? En limitant le nombre de violeurs par village ? En édictant des conditions d'exécution d'otages acceptables ? Dans un conflit comme celui que nous vivons, le relativisme moral est une chimère. Y croire, c'est accepter de se suicider à petit feu. Proposer des négociations avec des bouchers est une manière insidieuse de devenir leur complice.
Les Bandakar parurent secoués par un discours si radical. Soudain, leur philosophie leur semblait dépassée, et beaucoup d'entre eux trouvaient dans les propos du sourcier un écho de ce qu'ils pensaient tout bas depuis longtemps. Richard leur montrait une façon nouvelle de voir la lumière, et ils se rendaient compte qu'ils avaient été aveugles pendant la majeure partie de leur vie. Alors que les compagnons d'Owen méditaient sombrement, Kara revint et tendit la statuette à son seigneur. Richard n'en aurait pas mis sa tête à couper, mais il semblait bien que la couleur noire avait encore gagné du terrain. À l'intérieur de la balise, le sable continuait de couler inexorablement.
Kajarang a placé une frontière à travers ce col pour vous enfermer dans l'Empire Bandakar. Incidemment, c'est lui qui vous a donné ce nom. Sachant que la violence vous répugnait, il a eu peur que vous deveniez les proies impuissantes d'une horde de criminels. Pour vous protéger, il a eu l'idée du bannissement, ce châtiment qui vous permettait de continuer de mener une vie paisible. Voilà pourquoi vous connaissez l'existence du passage qui permet de contourner la frontière.
Contourner est un verbe un peu simple dans un tel contexte, mais il rend bien l'idée générale. Owen parut de nouveau très troublé.
Ce grand sorcier ne voulait pas que les piliers de la création se mêlent à la population de l'ancien monde. Si j'ai bien saisi, il entendait éviter la transmission de l'insensibilité à la magie. Mais qu'en est-il, dans ce cas, des criminels que mon peuple exile depuis des millénaires ? Leur permettre de vivre dans l'ancien monde ne pouvait qu'aboutir au résultat tant redouté par Kajarang. Les piliers de la création allaient croître et se multiplier.
Très bien raisonné, Owen, dit Richard. Tu apprends vite à te servir de ton intelligence. Le jeune homme sourit d'aise.
Si vous suivez la direction de son regard, dit Richard en désignant la statue, vous verrez que Kajarang le fixe sur un lieu appelé les piliers de la création. C'est un désert brûlant où rien ne peut survivre. La frontière imaginée par Kajarang était courbe, mes amis. Lorsque vous exiliez un criminel, il ne pouvait pas fuir par la droite ou la gauche. Il devait aller tout droit et finissait dans un cul-de-sac mortel.
Jusqu'à ces dernières années, la frontière emprisonnait les bannis dans cette vallée de la mort. Manquant d'eau et de vivres, sans aucune connaissance du terrain, vos criminels n'avaient pas une chance de s'en tirer vivants. Les Bandakar écarquillèrent les yeux.
« Donc, dit un homme, quand nous bannissions un criminel, c'était en réalité une condamnation à mort ?»«
C'est ça,
répondit Richard.
Kajarang nous a trompés,
conclut l'homme.
Il a fait de nous des assassins.
Pouvez-vous l'en blâmer?
Demanda Richard à brûle-pourpoint.
Votre peuple se débarrasse de ces criminels en les bannissant et pas en les tuant. Soit, mais ça revient à expédier des prédateurs dans le monde afin qu'ils se trouvent d'autres proies que vous. Au lieu d'exécuter les assassins, vous leur offrez la possibilité d'aller exercer leur talent ailleurs. Avez-vous déjà réfléchi à cet aspect de la question? À force de rejeter la violence, vous êtes devenus ses complices. Vous allez peut-être me dire que les victimes de vos tueurs lâchés dans la nature étaient des sauvages dont la vie ne comptait pas. Si cette question a jamais effleuré l'esprit de vos chefs, ils ont dû se répondre que la protection des précieux Bandakar passait avant toute autre considération. Kajarang a imaginé une solution qui empêchait la contamination de l'ancien monde par les piliers de la création et qui neutralisait des criminels dangereux. Il s'est chargé à votre place d'appliquer la peine de mort. En excluant tout recours à la violence, vous ouvrez une infinité de possibilités aux criminels. Le sorcier a su trouver une parade à cette menace.
« Créateur bien-aimé, »
soupira Owen alors que ses jambes se dérobaient.
« Les choses sont bien pires que ça. Vous ne savez pas tout, Seigneur Ral. »
D'autres Bandakar semblaient au moins aussi terrifiés que leur jeune chef. Certains se laissèrent lourdement tomber sur le sol, comme lui. D'autres se détournèrent, se prirent la tête entre les mains et s'éloignèrent en sanglotant.
« Que veux-tu dire ?»
demanda Richard à Owen.
« Eh bien, vous vous souvenez de ce que j'ai raconté sur notre mode de vie? Cette façon d'être toujours ensemble et de tout partager? Certaines personnes voyaient les choses autrement. »
Les bras croisés et le front plissé, Kalan se pencha sur le Bandakar.
« Que veux-tu dire ? »
demanda-t-elle d'un ton sinistre. Owen écarta les bras en signe d'impuissance.
Certains désiraient davantage que nos joies simples et conviviales. Ces gens-là voulaient changer les choses, les améliorer, comme ils disaient. Rendre la vie plus agréable, se construire de petites maisons, même si ça ne se fait pas chez nous.
« Owen dit vrai !»
intervint un des hommes âgés.
« Dans ma jeunesse, j'ai connu beaucoup de ces rebelles qui ne supportaient pas ce qu'ils appelaient les principes agaçants de l'Empire. »
Qu'arrivait-il aux gens qui voulaient changer la vie ou qui cherchaient à s'affranchir des règles de l'Empire? Demanda Richard. Owen regarda ses camarades qui semblaient aussi accablés que lui.
Les porte-paroles dénonçaient leurs discours, et le sage nous mettait en garde contre tout ce qui pouvait nous désunir. Immanquablement, toutes les idées de changement étaient rejetées, et ceux qui les professaient recevaient un blâme.
Owen déglutit péniblement.
Il est souvent arrivé que ces rebelles décident de quitter l'Empire. Ils empruntaient le même chemin que les criminels et partaient en quête d'une nouvelle vie. Aucun n'est jamais revenu.
Richard essuya d'un revers de la main la sueur qui perlait sur son front malgré le froid ambiant. « Ils sont morts parce qu'ils cherchaient une meilleure façon de vivre, » souffla Richard. « C'est un destin terrible, mais... empreint d'une certaine grandeur.
Vous ne comprenez pas ?
S'écria Owen en se levant d'un bond.
Nous sommes comme ces gens.
Il désigna les résistants.
Nous avons refusé de nous rendre alors que l'ordre torture des innocents à cause de nous. Certains que les horreurs ne cesseraient pas, nous ne nous sommes pas livrés. En agissant ainsi, nous avons agi contre la volonté des porte-paroles et du sage. C'était pour sauver l'Empire, mais ça nous a quand même valu d'être blâmés par nos chefs. Pour trouver un moyen de chasser l'ordre de Bandakar, nous avons franchi le col. Vous comprenez maintenant? Nous ressemblons aux rebelles qui ont émaillé toute notre histoire. Comme eux, nous avons voulu changer les choses. Comme eux, nous sommes partis pour fuir des principes qui nous étouffaient.
Dans ce cas, vous commencez peut-être à comprendre que tout ce qu'on vous a enseigné est à la gloire de la mort, pas de la vie. La fameuse lumière que vous êtes censé connaître n'était qu'un moyen de vous aveugler, mes amis.
Richard posa une main sur l'épaule d'Owen, puis il regarda la statuette que Kara venait de lui remettre.
« Vous êtes allé jusqu'au bout du voyage, » dit-il, « et vous avez découvert qu'il faut utiliser son esprit de manière indépendante quand on veut assurer sa survie et celle des êtres qu'on aime. Il vous reste beaucoup de choses à apprendre, mais vous êtes sur le bon chemin. Ne vous arrêtez pas, et ne revenez surtout pas en arrière. Si vous voulez réussir, il faudra mobiliser votre courage et agir comme je vous le demanderai. C'est la seule solution. »
Pour la première fois, les résistants semblaient authentiquement fiers d'eux. Richard ne les estimait pas parce qu'ils répétaient des fadaises apprises par cœur, mais parce qu'ils avaient pris des décisions courageuses.
« Richard ? » demanda soudain Jensen. « Pourquoi les rebelles ne sont-ils pas retournés dans l'Empire ? Ayant découvert qu'ils devaient traverser les piliers de la création, ils auraient pu renoncer ou au moins aller se procurer des vivres et de l'eau ?»«
Elle a raison, » dit Callan.
« George Cypher a traversé la frontière en empruntant le passage du roi. Il a fait l'aller-retour. Selon Adi, toute frontière doit avoir une soupape de sécurité. »
« C'était le cas de celle-ci, nous le savons, alors pourquoi nul n'est-il jamais revenu sur ses pas ?»
Les Bandakar tendirent l'oreille car cette question les fascinait.
« Je me suis demandé la même chose, » dit Richard. « Dans le Nouveau Monde, les frontières avaient besoin de soupapes parce qu'elles s'étendaient sur des lieux et des lieux. Celles qui se dressaient ici étaient bien plus courtes et elles ne visaient pas tout à fait les mêmes objectifs. Je veux dire qu'il n'y avait pas besoin que quelqu'un de l'extérieur puisse entrer dans l'Empire. »
« Bien au contraire, devrais-je ajouter.
Kadjarang a dû imaginer une issue qui ne fonctionnait que dans un sens. Nous savons déjà que le chemin du retour était presque impraticable, mais je parie qu'il a ajouté un obstacle magique infranchissable. »«
Je ne vois pas comment il a pu faire, »
marmonna Jensen. Richard posa la main gauche sur le pommeau de son épée.
« Certains serpents peuvent avaler des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Leurs crocs sont orientés de façon à empêcher leurs victimes de sortir une fois qu'ils l'ont ingéré. Kadjarang a dû imaginer un passage à sens unique de ce type.
« Tu crois que c'est possible ?»
demanda Jensen.
La barrière qui séparait l'ancien monde du nouveau pouvait permettre un aller-retour à certaines personnes, dans des conditions très précises. Une deuxième traversée était en revanche impossible. Un sorcier de l'envergure de Kadjarang était capable d'un exploit comparable. N'oubliez pas que sa frontière, un fragment du royaume des morts, rien que ça, est restée en place pendant près de 3000 ans.
« Donc, tous ceux qui ont quitté l'Empire sont morts ?»
dit Owen. « J'en ai bien peur. Kadjarang avait conçu un plan sans faille, et il avait choisi une localisation qui continuerait de vous isoler même en cas de défaillance de la frontière.
« C'est un point qui me dépasse, »
dit un jeune Bandakar.
« Si ce sorcier était assez puissant pour ériger une frontière capable de rester en place 3000 ans, comment expliquer que ce fragment du royaume des morts ait disparu pratiquement en un clin d'œil ?»« Je crois que c'est ma faute, »
dit Callan.
Elle avança vers les résistants et Richard ne tenta pas de l'arrêter. Au point où en étaient les choses, il ne devait pas laisser penser qu'il cherchait à cacher des informations au tout nouveau Daran.
Il y a environ 2 ans, pour sauver Richard, j'ai invoqué sans le vouloir une force venue du royaume des morts qui détruit lentement la magie présente dans notre monde. Le seigneur Ral a renvoyé ses carillons chez le gardien, mais il semble que ça n'ait pas suffi à régler le problème.
Les Bandakar échangèrent des regards inquiets.
La femme qui se tenait devant eux venait d'admettre qu'elle était la cause de leur malheur. Par sa faute, ils avaient perdu leurs frontières et des envahisseurs avaient déferlé sur leur ville et leur village. À cause de la mère inquisitrice, un empire vieux de 3000 ans avait été réduit à néant. Et ils avaient perdu tout ce qui comptait pour eux.